Chapitre 5. Un marché lugubre. Pendant ce temps-là, jaloux de se montrer digne de la confiance de son chef et désireux de gagner un nouveau chevron, l'agent de la sûreté guettait l'Américain. Cet espion était un petit homme maigre, sec, bien jambé, rusé, hardi, tout à fait construit au moral et au physique pour le métier qu'il faisait, métier dangereux. Picot, c'est ainsi qu'on le nommait, avait échappé jusqu'alors à tout guet-apens. Il s'était posté à 30 pas de l'hôtel, à l'angle de la rue, non pas immobile, mais allant et venant. Il était là depuis déjà plus d'une heure, lorsque William Doe, qui savait à quoi s'en tenir, sortit et se dirigea vers les boulevards, où il se promena longtemps, en flânant comme un étranger qui n'a rien de mieux à faire. À 7 heures, Picot le vit entrer chez Brébant, prendre place à une des tables du rez-de-chaussée, et commander son dîner, avec tout le soin qu'apporte à cette affaire importante, l'homme doué d'un bon estomac. Jugeant logiquement que celui qu'il était chargé de surveiller en avait là pour quelque temps avant de bouger, l'agent s'en fut prendre rapidement son repas rue Montmartre. Lorsqu'il rejoignit son poste, 20 minutes après, William Doe, en effet, en était à peine au rôti. Fort patient, Maître Picot acheta un journal et, s'installant auprès du kiosque, se mit à lire d'un œil pendant qu'il guettait de l'autre. Cela dura ainsi près d'une grande heure, et le policier avait fini sa lecture depuis longtemps lorsque l'Américain se décida enfin à demander son addition. Quand il l'eut reçue, il l'examina, paya, puis tout à coup sortit précipitamment du restaurant pour sauter dans une voiture en donnant au cocher son adresse. Picot avait des ordres et carte blanche. Il bondit dans un fiacre et après avoir ordonné à son automédon de suivre son collègue à quelques pas de distance, il se fit cette réflexion qui prouvait de sa part un certain talent d'observation. Si mon individu devait rentrer tout bonnement chez lui pour se coucher, il ne se presserait pas. Ou il va rejoindre quelqu'un, ou il ressortira. Au bout de 5 minutes, en effet, William Doe remontait en voiture. Picot courut à la sienne, et les deux fiacres, l'un suivant l'autre à distance, gagnèrent le pont d'Austerlitz pour monter au pas le boulevard de l'hôpital. « Parfait !» pensa Picot. « Nous allons décidément en expédition. Allons, Monsieur Mélin sera content. » Les deux voitures arrivèrent ainsi à la barrière d'Italie qu'elles franchirent, et les chevaux enfilèrent au trot la grande rue. Puis, juste au moment où l'agent de la sûreté se demandait si cette interminable course allait avoir un terme, son cocher, qui avait ses instructions, s'arrêta. Le fiacre de l'Américain venait de faire halte. Picot sauta à terre et crut d'abord qu'il avait suivi une fausse piste. L'individu qui venait de descendre de la voiture filée ne ressemblait plus, de tournure du moins, à celui qu'il avait vu monter rue Marlot. Il portait un chapeau mou et un épais veston d'ouvrier. Assez inquiet, l'agent se hâta de dépasser l'étranger pour se planter devant un bec de gaz en feignant de rallumer sa pipe. William Doe, qui semblait ne se défier de personne, avançait lentement. Picot le reconnut de suite, bien que sa coiffure lui tombât sur les yeux. « Très bien !» murmura l'espion, qui aimait à se donner des explications. « Très bien ! Nous avons fait ce petit changement dans le fiacre. Nous avions ce chapeau mou dans une poche et un grand paletot par-dessus l'autre. Nous ne voulions pas que les gens de l'hôtel nous vissent déguisés. » Tout en faisant ses réflexions, Picot suivait son homme, qu'il vit disparaître brusquement dans l'arrière-boutique d'un marchand de vin au coin de la rue Vendrezanne. Cette arrière-boutique était une petite salle meublée d'une demi-douzaine de tables autour desquelles venaient prendre place, à l'heure des repas, les ouvriers du quartier. Le soir, elle était presque toujours inoccupée, surtout après 9 heures, ses habitués ordinaires étant gens qui, se levant de grand matin, ne veillaient pas. Les deux fenêtres qui l'éclairaient ouvraient sur la rue Vendrezanne. En collant ses yeux à l'une d'elles, Picot aperçut l'Américain qui s'approchait d'un individu dont il ne pouvait voir le visage, car il lui tournait le dos. L'agent aurait bien voulu entendre la conversation de ces deux hommes, mais il eût fallu pour cela qu'il entrât dans le cabaret. Or, il n'y pouvait songer, d'abord parce que c'eût été fournir à celui qu'il filait l'occasion de le dévisager et par conséquent de le reconnaître un jour ou l'autre. L'émissaire de M. Mélin se résigna donc à attendre, quitte à agir selon les circonstances, lorsque les deux personnages qui l'intéressaient se sépareraient. ils se contentaient de ne perdre aucun de leurs mouvements, ce qui lui était facile sans courir le risque d'être découvert, car la rue était sombre, et William Do, après s'être fait servir une bouteille de vin et deux verres, s'était assis, lui aussi, le dos à la fenêtre, à la même table et tout près de celui qui semblait l'attendre. C'est alors que Picot vit l'Américain donner à l'inconnu, qui les glissa rapidement dans sa poche, plusieurs pièces de monnaie. Cet argent était-il des arnes à marché ou le paiement d'un service? Pour le savoir, laissons l'agent de la sûreté à son poste et pénétrons dans le cabaret. C'était bien le gardien de la morgue que William Do avait retrouvé là, fidèle à son rendez-vous. Tout d'abord, après s'être assis auprès de lui, il lui avait donné les 4 louis promis en lui disant « Voici pour votre exactitude. Maintenant, causons. » L'homme, tout ému de cette bonne fortune, sur laquelle il comptait à peine, fit signe qu'il écoutait. « Combien gagnez-vous par mois ?»« 80 francs, monsieur. »« Voulez-vous recevoir d'un seul coup plus d'une année de vos gages ?»« Que faudra-t-il faire ? » dit-il en pâlissant. « Donnez-moi d'abord quelques explications. La nuit, lorsque vous veillez, êtes-vous seul à la morgue ?»«
Tout seul, monsieur. »
« S'il arrive un corps lorsque le greffe est fermé ?»«
C'est moi qui en donne un reçu au porteur. » »«
Demain, on doit faire l'autopsie du vieillard qu'on a porté ce matin ?»«
Demain, 10 heures. Monsieur le greffé m'a prévenu que je devais être là. » »«
Oui, je sais. Le médecin légiste ne doit être assisté que de vous et de votre compagnon. Que fait-on du cadavre après l'autopsie ?»«
On le laisse généralement sur la table toute la journée, pour le cas où monsieur le docteur aurait besoin de l'examiner de nouveau. » Et le soir, on le met dans un des couvre-corps jusqu'au permis d'inhumer.
À quelle heure prenez-vous votre service demain?
À 8 heures.
C'est vous alors qui transporterez le cadavre de la table à la salle des couvre-corps?
Oui, monsieur, à moins que Louis... C'est mon camarade. Et moi, je m'appelle Gabriel. À moins que Louis n'en ait reçu l'ordre de monsieur le greffier avant mon arrivée.
À ce prénom doux et poétique que portait cet homme qui gardait les victimes du suicide ou de l'assassinat, William Do, malgré toute sa volonté, n'avait pu réprimer un mouvement de surprise. Ce fut un éclair. « Eh bien, Gabriel, reprit l'Américain, si demain soir, en arrivant à la morgue, vous ne trouvez plus le cadavre sur la table, il faudra aller le chercher. Si vous l'y trouvez au contraire, il faudra l'y laisser. »«
Pourquoi donc ?»«
Parce que je veux l'examiner, moi aussi. »«
Vous ? » ?»«
Moi-même. Si vous m'ouvrez la porte de la morgue la nuit prochaine, je vous donnerai 500 francs. » et 500 autres en sortant une demi-heure après. Le gardien fixait l'étranger avec épouvante. Il s'en était involontairement éloigné.
« Diable, ils ne paraissent pas s'entendre, » se dit Picot qui avait surpris ce mouvement.
William Do se rapprocha de Gabriel. « Vous croyez peut-être que je suis un peu fou, » poursuivit-il. « Non, je ne suis ni un fou ni un criminel. Je suis médecin. » Et la blessure qu'a reçue ce vieillard me semble si curieuse que je désire l'étudier de près, voilà tout. Or, le docteur chargé de l'autopsie ne peut m'autoriser à y assister et, comme votre greffier ne me laissera pas voir le cadavre après l'opération, je vous le demande à vous. » L'Américain avait dit tout cela d'un ton si calme, si simple, que Gabriel s'était senti tout à coup rassuré. Cependant, il hésitait encore. « Voyons, reprit l'étranger, qu'avez-vous à craindre ? La nuit, vous êtes seul. Vous avez les clés des portes du passage de service, puisque c'est par là qu'entrent les corps. Qui nous verra ? Personne. La fenêtre de la salle d'autopsie donne sur le derrière de la morgue. Une petite lampe et 20 ou 25 minutes me suffiront.
« À quelle heure viendrez-vous ? »
murmura le gardien. « Vers 1 heure. À ce moment, le quartier est tout à fait désert. Après m'être assuré qu'il n'y a personne aux environs, je m'approcherai de la porte qui est à gauche sur le quai et vous la tiendrez ouverte en dedans. » Je gratterai contre le panneau pour que vous soyez bien sûr que c'est moi et non quelques passants attardés. Je vous donnerai les 500 francs promis, j'entrerai et vous fermerai derrière moi. Une demi-heure après, je m'en irai par le même chemin en vous remettant les autres 500 francs.
Vous serez seul ?
Absolument seul.
Vous ne le direz à personne ?
À personne. Je suis étranger et je pars dans quelques jours.
Eh bien, soit, monsieur, je ferai comme vous voulez.
Alors à demain, dans la nuit, à 1 heure.
À demain, à 1 heure.
Ah, est-ce que les vêtements de la victime restent dans la salle d'autopsie ?
Oui, monsieur, jusqu'à ce que monsieur le greffier les envoie au parquet pour servir de pièce de conviction.
Fort bien. Maintenant, autre chose.
Quoi Quoi donc encore ? Savez-vous courir ? À cette question bien inattendue, le gardien de la morgue sentit renaître toutes ses craintes à l'égard de l'état d'esprit de son interlocuteur. « Vous allez me comprendre, lui dit-il. On me guette. Pour des raisons qui ne vous intéressent pas. Et tout à l'heure, en sortant, je ne serai pas surpris de rencontrer sur le pas de la porte de ce cabaret un individu curieux de savoir qui vous êtes. On ne vous connaît pas dans cet établissement. » « Non, monsieur, n'y suis jamais venu, et j'habite assez loin d'ici. » « Eh bien, je désire déjouer le plan de la personne qui veut savoir ce qui ne me convient pas qu'elle sache. Pour cela, voici ce que nous allons faire. En sortant, vous me direz assez haut pour être entendu de l'homme qui sera là. À demain, monsieur, à l'arrivée du train de 9h10 à Versailles. » « Vous me comprenez bien ?»«
Oui,
à demain, à l'arrivée du train de 9h10 à Versailles. » Puis vous vous sauverez de toute la vitesse de vos jambes du côté que vous voudrez. Voilà pourquoi je vous demande si vous courez bien. Oh, je défie qui que ce soit de m'attraper à la course. Alors c'est parfait. Voici 20 francs pour votre course. Ainsi c'est bien entendu. Demain dans la nuit, à 1h, à la porte de gauche de la morgue. Et là-bas, sur le pas du cabaret, à demain, à l'arrivée du train de 9h10, à Versailles. Puis filez. J'ai bien compris. Après avoir payé la bouteille de vin dont Gabriel avait vidé le dernier verre, en empochant la nouvelle gratification de son inconnu, William Doe s'était levé pour se diriger vers le seuil de l'établissement. Picot, qui toujours à son poste suivait les moindres mouvements de l'Américain, se glissa le long de la muraille afin d'arriver en même temps qu'eux sur le pas de la porte du marchand de vin. Les choses se passèrent comme le désirait l'étranger. Le gardien lui dit les mots convenus, et s'élançant avec la rapidité d'un cerf de l'autre côté de la chaussée, il disparut comme une ombre dans une des ruelles adjacentes. William Doe surprit le mouvement de stupeur de l'agent de la sûreté, qui ne s'attendait pas à une séparation aussi brusque de ces deux personnages. Mais n'ayant pas même l'air de le voir, il rejoignit sa voiture. Un moment interdit, car il avait formé le projet qu'avait bien prévu l'Américain, de suivre l'ouvrier pour savoir où il demeurait et qui il était, Picot se dit qu'après tout, ce n'était que partie remise, puisqu'il devait le retrouver à Versailles. Et il courut à son fiacre pour s'assurer au moins que le voyageur entrait chez lui. Quant à William Doe, une fois en voiture, il ne put s'empêcher de murmurer avec son sourire ironique. « Voilà un pauvre diable qui nous attendra demain soir dans la gare de Versailles à 9h10. Et comme il n'y a plus de train de retour à cette heure-là, il passera la nuit là-bas. Pendant ce temps-là, je serai, moi, où je veux être. » 25 minutes après, l'étranger rentrait chez lui, et Picot lui envoyait de loin un bonsoir moqueur en s'applaudissant du résultat de sa soirée. Le lendemain, en effet, lorsque l'agent de la sûreté alla raconter son expédition à M. Mélin, il en reçut les plus grands éloges et 40 francs, dont le commissaire de police le gratifia en lui disant « C'est fort bien, Picot, tu es habile. Nous voilà sur une piste intéressante, qu'il s'agit de ne pas perdre. Inutile de surveiller notre homme pendant la journée. Il pourrait se défier de quelque chose, mais soit ce soir à Versailles, à l'arrivée du train. Prends un camarade avec toi, si tu veux. » « Inutile, monsieur Mélin, je ferai mon affaire tout seul, si vous le permettez, » répondit orgueilleusement l'agent. « Les camarades, ça prend le quart de la peine et la moitié des profits. » Et sur le geste de monsieur Mélin, qui le laissait mettre à agir à sa guise, Picot s'en fut, saluant d'une main et serrant gaiement de l'autre ses deux pièces d'or.